1939-1942, le camp des Milles, quand la Troisième République internait les opposants au régime nazi. Le 12 septembre a été inauguré le mémorial du camp des Milles près d'Aix-en-Provence. Cette ancienne briqueterie, fermée en 1938, fut l'un des quelques 200 camps de détention installés sur le territoire français durant la Seconde Guerre mondiale et le seul à être conservé en l'état. En service de septembre 1939 à septembre 1942, ce fut d'abord un camp d'internement pour les étrangers, entre guillemets, indésirables, pour la plupart des opposants au régime nazi obligés de fuir l'Allemagne, puis un camp de transit avant de servir de base de déportation vers les camps de concentration ou d'extermination nazis. De septembre 1939 à avril 1940. En septembre 1939, c'est encore la Troisième République avec sa devise de, entre guillemets, « liberté, égalité, fraternité » qui est en place, ce qui n'empêche pas le gouvernement Daladier, au moment de la déclaration de guerre à l'Allemagne, d'ouvrir des camps pour y interner, selon une circulaire du ministère de l'Intérieur, les, entre guillemets, « étrangers » et les apatrides suspects, dangereux ou indésirables. Et c'est ainsi, entre autres, que des Allemands, des Autrichiens et des Tchèques, qui pour la plupart avaient fui devant le régime nazi ou leur opposition à la dictature équivalait à un arrêt de mort, se retrouvèrent enfermés sous le prétexte aberrant qu'ils risquaient d'appartenir à la cinquième colonne, c'est-à-dire aux éléments infiltrés par le service d'espionnage nazi. En fait, selon l'écrivain Leon Feuchtwanger qui relate les conditions de son internement au camp des Milles dans « Le diable en France », entre guillemets, les autorités compétentes savaient parfaitement que les espions et les saboteurs, les amis des nazis, les chefs de la cinquième colonne, se trouvaient partout sauf parmi nous. On nous avait incarcérés dans le seul but d'impressionner la population. On voulait détourner l'attention des Français, de ceux qui, en réalité, portaient la responsabilité des échecs et qui restaient intouchables. Beaucoup de détenus des Milles faisaient partie de l'intelligentsia allemande anti-nazie, qui vivaient dans le quart sud-est de la France, des écrivains comme Leon Feuchtwanger, Manes Sperber ou Goloman, des peintres tels Max Ernst ou Robert Liebknecht, le fils du révolutionnaire, des musiciens, etc. Mais il y avait aussi des ouvriers sarrois qui avaient pris le parti de la France lors du plébiscite sur le rattachement de la Sarre à l'Allemagne en 1935, ou des juifs expulsés de plusieurs Länder allemands. Les conditions d'existence étaient infectes. Rien n'avait été prévu. La saleté et la gabegie dominaient. Les détenus étaient entassés au premier étage de la briqueterie, chacun disposant d'un espace de 70 cm de large, dormant à même le sol dans la poussière et les débris de tuiles, avec juste un peu de paille pour les isoler de la saleté. Il n'y avait qu'un seul point d'eau potable pour une population qui allait dépasser les 3000 personnes. La promiscuité et une hygiène déplorable amenant de nombreux cas de dysenterie. Les internés étaient de plus affectés à des tâches absurdes, même si elles n'étaient pas harassantes, telles que transporter des briques d'un endroit à un autre pour les rapporter le lendemain à leur point de départ, dans le seul but de les occuper. Du camp dit de transit, 1940-1942. Le camp fut fermé en février 1940, une partie des 250 détenus étant libérée, tandis que les autres étaient transférés dans un autre camp. Rouvert en mai, lors de l'invasion du pays par les troupes allemandes, il devint alors un camp de transit, dans l'attente d'un, entre guillemets, « criblage », distinguant les ennemis des nazis, pour leur permettre d'obtenir des laissez-passer et des visas d'émigration, criblage qui n'eut jamais lieu, l'inertie des autorités et surtout la désorganisation totale de l'administration rendant toute démarche impossible. Le camp était sous l'autorité des militaires. Sa surveillance, assurée par des soldats mobilisés, n'avait rien de répressif. Des permissions de sortie ayant même été accordées dans la première période et plusieurs militaires responsables du camp des Milles essayèrent d'aider des détenus à le quitter. Car aux conditions de détention qui empiraient avec le surpeuplement, s'ajoutait l'angoisse pour les opposants au régime nazi, parqués dans la briqueterie, d'être rattrapés par les troupes allemandes, ce qui équivalait à une condamnation à mort. Face au, entre guillemets, « mur de papier » auquel se heurtaient les détenus et qui les empêchait de quitter la France, des filières d'évasion à l'initiative d'organisations humanitaires furent mises en place. Le commandant du camp lui-même mit un train à disposition des détenus pour leur permettre de gagner l'Espagne. 2000 d'entre eux prirent ce entre guillemets, « train fantôme », parti le 20 juin des 1000, il atteignit Bayonne une semaine plus tard pour faire demi-tour. Les détenus furent alors rassemblés dans un camp improvisé à Saint-Nicolas, près de Nîmes, avant de regagner les 1000. Si le champ dans lequel ils étaient à Saint-Nicolas était entouré de barbelés, les gardiens fermaient les yeux lorsque les détenus passaient dessous pour chercher un moyen de quitter le pays ou simplement faire un tour pour se baigner. Mais ils n'allaient pas loin. Avec l'instauration du régime de Vichy, la France entière, même la zone non occupée dans laquelle ils se trouvaient, devenait une prison. Sans laisser passer, ils risquaient à tout moment d'être appréhendés par la police ou les gendarmes et remis aux autorités allemandes. Le paradoxe de la situation faisait que c'était encore dans les camps, à Saint-Nicolas ou aux Milles, qu'ils couraient le moins de risques. Dans le traité d'armistice signé par Pétain le 19 juillet 1940, l'article 19 stipulait que le gouvernement de Vichy s'engageait à remettre aux vainqueurs tous les immigrés allemands et autrichiens se trouvant sur le territoire, et celui-ci alla même plus loin, en y intégrant les résidents de la zone non occupée du sud de la France. Au camp d'internement avant la déportation. En octobre 1940, l'administration du camp des Milles passa sous le contrôle direct du ministère de l'Intérieur et les conditions de détention se durcirent. Suite aux lois raciales et antisémites promulguées à partir d'octobre 1940, les effectifs du camp gonflèrent avec l'afflux de juifs, victimes de rafles et incarcérés aux Milles. Et en 1942, la police de Vichy alla même au-delà des ordres de l'occupant en organisant des convois de déportés vers les camps d'extermination nazis. Au total, entre août et septembre 1942, 5 convois furent formés au départ des Milles jusqu'au camp de Drancy, regroupant en tout plus de 2000 hommes, femmes et enfants, aussitôt dirigés vers Auschwitz pour y être assassinés dans les chambres à gaz. Après le dernier convoi, le 19 septembre 1942, le camp fut peu à peu vidé, les derniers détenus étant dispersés dans d'autres camps jusqu'à sa fermeture en mars 1943. Après la guerre et jusqu'en 2002, la briqueterie reprit son activité comme si rien ne s'y était passé. Si le camp de Drancy a été dénoncé comme un exemple de la barbarie nazie avec la complicité active de la police française, le silence a entouré pendant longtemps l'existence du camp des Milles où, en 1939, un régime se prétendant démocratique a interné des opposants au nazisme et où la police de Vichy a ensuite fait seule un sale travail que n'exigeait même pas l'occupant. Marianne Lamiral.